Rule of law for us is key.
L'état de droit pour nous est clé, c'est le Premier ministre néerlandais Mark Rutte qui s'exprime ainsi au début des négociations sur le budget et le plan de relance européen cet été à Bruxelles. Deux jours plus tard, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, en fait une affaire personnelle. Je ne vois pas pourquoi le Premier ministre néerlandais me déteste autant, moi et la Hongrie. L'état de droit n'est pas une question personnelle. C'est un sujet majeur de l'Union européenne depuis 3 ans. Depuis que la Hongrie et la Pologne font l'objet d'une procédure qui pourrait les conduire à perdre leur droit de vote. Comme il faut l'unanimité pour l'enclencher, les deux pays se serrent les coudes et rien ne change. Jusqu'au sommet de l'été dernier, où l'accord sur le plan de relance et le budget mentionne bien, in fine, comme le voulait le Premier ministre néerlandais et tant d'autres chefs d'État, l'état de droit. Les Polonais et les Hongrois ont pensé qu'ils auraient un veto pour empêcher son application, analyse Eulala Rubio, politiste à l'Institut de l'Or. Mais il y avait, selon elle, une ambiguïté à dessein pour que tout le monde signe. Pendant l'été et après, les négociations sur ce sujet ont continué. La Commission a proposé un compromis, le Parlement l'a amendé, le Conseil européen validé et cette fois à la majorité qualifiée. Début novembre, le règlement permettant de suspendre l'allocation des fonds européens en cas d'atteinte à l'état de droit fut publié, déclenchant la crise actuelle. Le sujet principal, c'est le risque de détournement, de fraude, de corruption et pas la politique migratoire, comme l'affirme le Premier ministre hongrois qui a surtout des raisons financières de s'inquiéter. Car ce règlement vient combler 2 failles énormes. Aujourd'hui, c'est l'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude, qui est chargé de vérifier que les fonds européens sont bien utilisés. Il peut enquêter, mais il ne peut pas poursuivre. S'il trouve une infraction dans un pays, il transmet le dossier à la justice et c'est à elle d'instruire, poursuivre et sanctionner. Si la justice est aux ordres, ces magistrats nommés par le pouvoir politique, comme en Pologne, les dossiers de l'OLAF enterrés, comme ce fut le cas pour des subventions accordées au gendre de Viktor Orban, on en reste là. Deuxième faille, ce n'est qu'après que les fonds soient versés que l'OLAF peut enquêter. Cette fois, la Commission pourra proposer de ne pas les verser préventivement s'il y a dans un pays des carences structurelles qui ne permettent pas de garantir que l'argent public européen est utilisé à bon escient. Et parmi ces carences, il y a tout en haut de la liste l'indépendance de la justice et pas la politique migratoire. Pour qu'elle puisse mettre un pays à l'index et recommander la suspension des fonds, la Commission devra en effet démontrer qu'il y a un lien entre la règle de droit qu'elle juge non respectée et la bonne utilisation de ces fonds. Quand un État ne prévient pas les conflits d'intérêts ou la corruption, ce qui est le cas de la Hongrie, que la justice n'y est pas structurellement indépendante du pouvoir politique, ce qui est le cas de la Pologne, il est possible de faire ce lien. Le lien entre la bonne gestion financière du budget européen et la fermeture des frontières, la remise en cause du droit à l'avortement ou même les atteintes aux libertés de la presse sera en revanche beaucoup plus difficile, voire impossible à démontrer. Ce règlement a donc une portée bien plus limitée que ce qu'affirment les dirigeants hongrois, polonais et ceux qui les soutiennent. Il ne les empêchera pas de rester des démocraties illibérales, mais il évitera, s'il reste en l'état, que ces desseins soient financés par les autres Européens. Il est là l'enjeu du conflit actuel et il sera difficile de trouver un compromis gagnant-gagnant.